Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
On a vécu un week-end de Formule 1 de malade, un Grand Prix exceptionnel à Interlagos au Brésil. Verstappen partait 17ème. Il a gagné, il a très probablement plié le game, comme on dit, au championnat du monde. Alpine était au fin fond du classement des constructeurs avant cette course. Et bah devinez quoi, mais pardon Alpine, mais on a été tellement méchants avec toi depuis le début de saison. Cette fois, l'écurie française a signé un doublé, nos deux pilotes français sur le podium, avec Ocon deuxième et Gasly troisième. C'est un miracle, c'était plus arrivé depuis 30 ans en Formule 1, rendez-vous compte. Ça va être un paddock RMC exceptionnel, et pour débriefer cette course, les ingénieurs sont présents, encadrés par notre team principal, Jean-Luc Roy, Louis Gerbier et Arnaud Valadon. Salut les gars.
Salut à tous.
Hello à tous.
Cocorico.
Juste rapidement les gars, mes meilleurs Grand Prix de la saison là, quand même, hein. De loin, hein, non, Jean-Luc?
Ah ouais. Bah écoute, de toute façon, dès qu'il y a de l'eau, hein, ça brouille les cartes, ça brouille la piste et... ça brouille l'écoute, et non, c'est vraiment fabuleux. Écoute, là, c'est super, parce que ça remet effectivement les pilotes en avant, et c'est quand même ce qui nous intéresse, hein. Ça gomme les différences mécaniques, on l'a bien vu avec les McLaren.
Louis Arnaud, depuis combien de temps n'avait pas vibré comme ça devant un Grand Prix, franchement?
Depuis Miami? Non, je rigole.
Ah non, moi, après, le truc, c'est que comme il y a les Alpines, du coup, je te dirais la Hongrie d'Esteban, et avant ça, les podiums, ouais, de Pierre, tu vois. Parce que c'est toujours, ouais, différent quand il y a les Alpines. Enfin, tu vois, là, hier, j'étais comme... redressé sur l'avant du canapé, à regarder chaque tour, à regarder chaque dixième de Pierre et Russell. C'est pas du tout la même attitude que quand il y a un super Grand Prix, mais finalement, les Français sont pas impliqués, tu vois.
Ouais, mais tu vois, je trouve ça encore plus fort que ces moments-là, que la victoire d'Ocon ou Gasly avec Alpine, parce qu'en fait, là, il y a eu de la dramaturgie dans tous les sens. Il y a bien évidemment ce doublé français, mais t'as aussi la lutte entre Verstappen et Norris. Verstappen qui fait, on va en débattre, mais peut-être la meilleure course de sa carrière. Lando Norris qui, bah, à contrario, se trouve complètement sur ce Grand Prix, et on voit bien la différence entre les deux pilotes. Donc, vraiment, là, il s'est passé tellement de choses. Voilà, la preuve, on n'a même pas terminé ce sommaire. Ça fait déjà 4 minutes qu'on a lancé le podcast. Que je ne sais pas combien de temps on va faire. En tout cas,
2 heures.
Ouais, on va peut-être faire 2 heures. En plus, avec le décalage horaire, Jean-Luc, il a tout l'après-midi devant lui. Nous, un peu moins, mais on peut y aller. Les gars, c'est parti. En tout cas, bah, on va tout de suite se plonger dans ce qui s'est passé au Brésil, parce que ça a été un week-end de zinzin.
On va partir donc avec Lando Norris sur la partie droite de la piste, Russell sur la gauche, apparemment un bon départ, mais Russell est parti très très fort à l'intérieur, là, Russell, oui, qui parvient à freiner et prendre l'avantage sur Lando Norris, et derrière on se frictionne avec un excellent Esteban Ocon qui va peut-être prendre l'avantage sur Yuki Tsunoda. On est dans les S d'Ayrton Senna, là, en départ vers le virage numéro 4, celui où Stroll s'est fait piéger tout à l'heure, et c'est bien George Russell qui est au commandement avec la Mercedes. Excellent départ du pilote britannique. Yuki Tsunoda tient bien la troisième place devant Esteban Ocon, et puis on a la remontée de Verstappen comme une balle, hein. Littéralement, il est déjà dixième de ce Grand Prix. Et pour le moment, la remontée de Verstappen est absolument sidérante, là. Il a gagné plus de 10 places en 10 tours, donc c'est remarquable. Là, il vient de prendre l'avantage à l'instant sur Liam Lawson pour s'emparer de la sixième position.
Et la Formule 1, Grand Prix absolument incroyable. Jean-Luc Roy, je reviens vers toi parce que qu'est-ce que je vois? Verstappen est en tête.
Oui, absolument, Marina. Oui, bah, il a placé un freinage extraordinaire, hein, comme il sait le faire. Alors, c'est vraiment le meilleur. Là, on a l'impression que les autres sont une piste mouillée et lui sur une piste sèche. Ah, quasiment. Il vient à nouveau de pulvériser. Et tiens, à l'instant où je te parle, encore au 51e tour, c'est lui le plus rapide. En 1 minute 22 secondes et 43 millièmes, il tourne actuellement entre 6 dixièmes et 1 seconde plus vite que l'ensemble du plateau. C'est dire qu'il a creusé un écart sur Esteban Ocon de près de 6 secondes. Maintenant, Ocon toujours deuxième. Ocon qui précède l'autre Alpine, certes de Pierre Gasly. Pour le moment, on est sur le podium du côté des hommes d'Alpine. Et puis une petite anecdote rigolote, comme on les aime, parce que Lando Norris, qui est actuellement sixième devant son collègue Piastri de chez McLaren, vient de recevoir un ordre de la part de son ingénieur qui lui a dit: est-ce que tu peux essayer de te rapprocher de Charles Leclerc, parce que Piastri a pris une pénalité de 10 secondes et on voudrait le mettre à l'abri. Et il lui a répondu, évidemment, à son ingénieur Norris, il lui a dit: tu crois que je lis le journal, en gros? les derniers mètres maintenant pour Verstappen qui va remporter la 62e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Un Grand Prix du Brésil absolument incroyable pour le leader du championnat du monde qui devrait porter son avance à 62 points. Là, on peut dire qu'il a tapé un grand coup sur le casque de Lando Norris, évidemment. Le deuxième, eh bien, ça va être Esteban Ocon maintenant qui va franchir la ligne. Une vingtaine de secondes derrière Verstappen. Voilà Esteban Ocon après sa victoire. Il a une victoire au compteur. C'était au Grand Prix de Hongrie en 2021. Eh bien, il montera sur le podium Esteban. Lui qui était vraiment très loin et qui avait du mal avec une monoplace qui était en retrait. Et puis, on va placer Pierre Gasly sur l'autre marche du podium, la troisième. Magnifique tir groupé des pilotes alpines au deuxième et troisième rang.
Voilà, le récap de la course est long et encore, j'ai envie de dire qu'on en a peut-être un dixième parce qu'il s'est passé tellement de choses au Brésil à Interlagos ce week-end, même avant cette course, que ce soit lors du sprint et tout ça. Donc on va essayer de vous récapituler vraiment en détail et revenir sur tous les événements de ce week-end incroyable. Et je vais juste vous refaire le classement, vous l'avez entendu dans la voix de Jean-Luc et dans cette petite prod, mais Verstappen s'impose alors qu'il partait 17e sur la grille après des dépassements, des manœuvres incroyables, plus incroyables les unes que les autres. On va revenir sur tout ça. Ocon et Gasly, deuxième et troisième. Alpine qui fait un bond fabuleux au classement des constructeurs. Quatrième, George Russell. Cinquième, Leclerc. Sixième, Lando Norris, le grand battu, bien évidemment, de ce week-end au Brésil. Septième, Tsunoda. Huitième, Piastri, un peu en retrait une nouvelle fois. Liam Lawson est neuvième. Et Lewis Hamilton prend le point de la dixième position. Sergio Perez montre encore qu'il y a une classe d'écart avec Verstappen, puisqu'il est hors des points, onzième. Douzième, Berman. Voilà, Fernando Alonso, quatorzième. Il a été en souffrance, Fernando, ça nous a fait mal franchement de voir tout ça. Et puis sinon on va revenir un petit peu sur Lance Stroll aussi, sur Carlos Sainz qui n'ont pas terminé cette course au Brésil. Le classement des pilotes, les amis, 62 points désormais d'avance pour Max Verstappen sur Lando Norris. Il n'est pas encore sacré champion du monde, mais dans 3 semaines à Las Vegas il pourra le faire. Faudra que Norris lui reprenne absolument 3 points ou plus pour espérer rester dans la course. Mais bon, à 3 courses de l'arrivée, 62 points d'avance. Et vu le coup sur la carafe qu'a pris Lando, on peut se dire que les carottes sont cuites. On va y revenir. Troisième, c'est toujours Charles Leclerc. Et quatrième, Oscar Piastri. On va checker nos pilotes français, hein, puisque du coup, désormais, Pierre Gasly est 12e au championnat, 26 points. Et Esteban Ocon remonte de 5 places. Il était 19e avant cette course, Esteban. Et il est désormais 14e avec 23 points. Classement des constructeurs, McLaren qui garde la tête avec 593 points, 36 points d'avance sur Ferrari et Red Bull qui recolle un petit peu grâce à ce succès de Verstappen à 13 points de Ferrari. Voilà, les positions sont plutôt figées dans ce secteur. Jean-Luc, bon, revenons quand même sur ce succès incroyable de Max Verstappen, une masterclass, hein, si on veut faire un très mauvais jeu de mots. Première victoire pour lui depuis 133 jours, 10 courses qu'il n'avait pas gagné, la dernière c'était au Grand Prix d'Espagne. Et puis surtout cette remontée, il était 17e, il gagne la course. J'ai regardé les statistiques aujourd'hui, mais je crois qu'elle a été classée, cette remontée, dans les 5 plus belles remontées de l'histoire de la Formule 1. Alors je sais pas sur quoi il se base exactement dans les stats, mais quelle course de Verstappen, Jean-Luc.
Ah si si, Nico, écoute, c'est fabuleux. Ben, il se base tout simplement sur les vainqueurs de Grand Prix et leur position de départ sur la grille. Or, il y a seulement 5 vainqueurs de Grand Prix qui étaient partis depuis la 17e place ou moins bien. Donc c'est pour ça que c'est évidemment les 5 courses les plus spectaculaires. Alors si on remonte dans la carrière de Max, j'ai regardé un petit peu aussi, il y avait eu en 2016, hein, très très tôt, en tout début de carrière en Formule 1, il était parti 16e, il avait terminé 3e. Et puis moi je ne peux pas écarter évidemment, bon il avait une machine dominatrice, on le sait, mais la Belgique, hein, Spa-Francorchamps, un juge de paix, 2022, il part 14e et il gagne. Mais là il fait mieux, d'autant que les conditions, bah, elles sont piégeuses pour tout le monde. On a tendance à l'oublier, on a vu tellement de pilotes, et parmi les meilleurs, se faire piéger, soit pendant les qualifs, soit pendant la course, y compris ben, au moins un champion du monde, Fernando Alonso, ça c'était en qualif, et puis Sainz qui va quand même 2 fois au tas. Bon, je parle même pas des jeunes, hein, c'est un peu normal, Colapinto, etc. Mais donc, c'était terriblement piégeux, comme je l'évoquais pendant le commentaire, on avait l'impression parfois que lui était sur piste sèche et que les autres étaient sur une piste totalement détrempée. Je crois qu'il a éclaboussé, tu vois, tu parlais de jeu de mots tout à l'heure, je vais en faire un, il a éclaboussé de sa classe l'ensemble des autres pilotes et surtout, bah, il a démontré encore une fois que, et je les aime beaucoup, hein, tous les deux, Norris et Piastri sont encore un peu tendres avec une machine qui était quand même la meilleure et qu'ils étaient sur la première ligne. Enfin, Norris était sur la pole, donc c'est insensé. Là, comme là aussi je l'évoquais, il prend un coup sur le casque terrible et puis à voir son visage et même ses réflexions, lui qui est d'habitude assez fair play, il a été un peu aigri en disant bah c'est les circonstances, on n'aurait pas dû. Et puis je vais te dire, chez McLaren une nouvelle fois, bah c'est des mauvais, on n'arrête pas les deux, on met au moins deux stratégies différentes, dans ce cas on en laisse un en piste, tu vois, puisque d'autres l'ont fait, bah, on pouvait également, bah oui, évidemment, on a les deux monoplaces très bien placées, et on est les seuls à les avoir, de surcroît. Bon, bah, on laisse au moins une monoplace en piste, on le fait même pas. Non, ils sont mauvais stratégiquement chez McLaren, je suis désolé de le rappeler, ils ont fait une voiture formidable, mais ils savent pas l'exploiter comme il faut, en tout cas, pas dans ces circonstances-là.
On va revenir bien évidemment hein, plus en profondeur sur la course de Norris, sur ses choix de McLaren, mais restons un peu focus sur Verstappen, Louis. En fait, le truc, c'est que moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. Déjà, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à sa célébration. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un Verstappen limite ému.
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné.
C'est ce que j'allais dire.
Déjà, c'est vrai, mais même quand il a gagné des courses un peu difficiles, j'ai l'impression que celle-là, c'était quelque chose de particulier. Il y a eu ça, et puis il y a eu ses manœuvres en piste. Mais le gars, en fait, des fois, il met sa voiture où personne qui met un museau ou un morceau de pneu avant, et lui, il met la voiture au complet dans des espaces. C'est complètement dingue ce qu'il a tenté.
Ah ouais, oui. Non, il fait une course monumentale. Il y en a trop, en fait, des dépassements. Je saurais même pas parler d'un en particulier, peut-être celui d'Ocon finalement sur le dernier départ.
Sur le restart.
Le restart où moi, 43e tour. Je regarde le restart, on va dire, un peu de manière globale. Et en fait, dans la ligne droite de la Curva del Sol, je vois Verstappen devant et je dis, il l'a doublé quand ? J'ai pas compris. Et en fait, j'avais même pas dans ma tête pensé qu'il avait pu aller mettre le nez au premier virage et c'est qu'au ralenti que j'ai vu. Il le bouffe à l'aise en plus. Alors, il aurait fallu redemander si Esteban se dit bon.
A pas un peu tardé.
Ouais. Est-ce que lui est un petit peu gentil pour le coup, parce que ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement simple à ce moment-là. Et puis ça, c'est son dernier move. Avant, il y en a eu une ribambelle incroyable. Un gars qui ne fait pas une erreur. C'est Hülkenberg qui le dit derrière. Il dit c'était impossible de pas faire des erreurs il y a que Max Verstappen qui est capable de pas faire d'erreur dans un truc pareil. C'est une manière de c'est en fait c'est ça aussi qui est impressionnant hier, je trouve, c'est dans le discours de tous ses pairs. C'est-à-dire que t'as vraiment
la reconnaissance.
T'as les pilotes, ils sortent de là, ils font oh papy, il a fait quoi lui, il vient d'où celui-là quoi. Et quand on a même vu sur Instagram Hamilton avec tous leurs passifs qui le félicitent. Je pense aussi que ça, là il a mis un statement comme dit personne d'ailleurs, c'est une expression
ça,
c'est à la
clair.
Con. Mais il a vraiment. Il a encore changé de catégorie finalement et pour revenir sur son émotion, sur le bonheur, c'est que donc déjà ça fait très longtemps qu'il a pas gagné, donc déjà deux fêtes. Derrière, il y a cette course monumentale parce que hier quand il est 17e et que l'autre est en pole, le scénario privilégié, c'est que potentiellement il y a une vingtaine de points entre les deux à la fin du week-end.
Bah oui.
Ouais. Donc il y a un ascenseur émotionnel, une course monumentale, peut-être la course d'une vie. Et derrière ça, il y a aussi quasiment un titre qui revient, pas comme par magie, comme par talent, mais qui revient alors qu'il s'échappait. Et donc je pense que tout ça mélangé, ouais, c'est émotionnellement, il l'a vécu, c'est vrai, en lâchant les chevaux. Quoi.
Et on a vu simplement pourquoi il est triple champion du monde.
Et bientôt, quadruple surtout.
Mais attends Arnaud, est-ce que c'est la plus belle course de sa carrière ? Franchement, hier. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
Ah, Spa était quand même...
Pour moi, oui.
Ouais.
Pour moi, oui.
Ouais.
Voilà.
Je sais... Peut-être que c'est la plus belle, mais je sens qu'il va tellement faire d'autres magnifiques encore, Max Verstappen, parce que il a que 27 ans, hein. Il est encore bien jeune pour
un
pilote.
C'est la plus belle pour l'instant.
Pour l'instant. Moi, rien que tu prends son départ, c'est la maîtrise de sa traction, du freinage, de lire la piste dans des conditions incroyables. Il fait l'exter au virage 1, là, il arrive dans les S de Senna, il double déjà tout le monde, même les commentateurs Canal+, Julien Febro et Jacques Villeneuve pensaient qu'ils étaient perdus parce qu'ils ont pris Pérez pour Verstappen.
Et oui, parce qu'il est remonté tellement vite qu'ils ont
remonté les deux. Il était 11e, il est remonté surtout. Moi, je trouve la façon de sentir sa machine, de sentir la piste, et on l'a vu, hein, Hamilton est allé dans l'herbe. À un moment, je t'écoutais, Jean-Luc, parce que pendant les qualifs, je me faisais cette réflexion. Oh, y en a marre, dès qu'il pleut, tu vois tout de suite les plus mauvais pilotes, et 10 secondes après, je vois Fernando Alonso faire une sortie de piste. Je me dis, bon, ça peut arriver à tout le monde.
Il a toujours été surcoté, Alonso.
Sortez!
Non, mais on peut quand même lui rendre hommage à Fernando Alonso, qui est sorti avait des gros problèmes de dos et qui a tenu pour ses ingénieurs qui ont réparé sa voiture, et puis aussi pour les tragédies en Espagne, même s'il vient des Asturies, c'est pas trop la région de Valence, mais ouais, évidemment touché par ça.
La solidarité, elle est nationale.
La solidarité. Ouais. Mais oui, Max Verstappen, il se dirige vers son 4e titre de champion du monde. Peut-être le titre le plus beau. Tu me parlais de la course la plus belle, mais ce sera peut-être le titre le plus beau parce que c'est le premier avec un peu de suspense. Voilà. Et parce qu'il n'a pas la meilleure voiture. Je regardais, Sergio Pérez a pris autant de points que je crois depuis la pause d'été, la pause estivale, que Pierre Gasly.
Ah ouais. Ah,
depuis le summer break, 20 points pour Gasly, 20 points pour Pérez, 18 pour Ocon. Alors, on est tous d'accord pour dire que Pérez sous-performe largement, parce qu'elle mérite de, normalement, même avec cette voiture, tu prends un peu plus de points. Mais c'est pour dire comment Max se bat, et Grand Prix incroyable, et il y avait quand même pas trop de doute au restart que Max Verstappen dépasse Esteban Ocon.
Qu'il allait le croquer.
On est peut-être un peu surpris que ça soit direct au restart.
C'est
mais,
ça.
La puissance quand même aussi de la Red Bull, qui est pas non plus le plus gros tank du plateau, hein.
Ouais. On va l'écouter, Max Verstappen. Tiens, d'ailleurs, je crois que c'est la question que lui pose notre confrère notre consoeur, d'ailleurs, je crois, de Canal+. Est-ce que c'est la plus belle course de ta carrière?
It's one of greatest victories of your career.
I think so. Yeah. I mean,
je crois vraiment. Parce que c'était dans un moment crucial, il y avait de la pression. L'équipe et moi, on n'a pas craqué, on a fait de bonnes choses, et puis la voiture était incroyable. On a fait les bons choix, on a gagné, on avait confiance dans la voiture, c'est absolument fou.
On
peut être champion à Las Vegas. Franchement, j'y pense pas trop, je vais juste faire trois courses propres et on verra ce qui se passe. Voilà, Max Verstappen, même lui il le dit, hein. C'est probablement dans le momentum là, dans tout ce qui s'est passé, la pression, parce que Jean-Luc, faut quand même le dire aussi. Alors, il y a cette histoire de Verstappen qui part 17e, son adversaire Norris qui est en pole, mais en plus, il y a eu la course sprint où il a perdu quelques points sur Norris. D'ailleurs, dans un scénario il se fait sanctionner, d'ailleurs, dans un scénario. Et d'ailleurs, j'embrasse mon papa, qui nous écoute, grand fan de Formule 1. Il était scandalisé après le sprint. Il m'a dit, là, c'est la FIA, ça se voit trop. ils en veulent à Max. Ils sortent une safety car. Une fois que les McLaren ont swipé leur position, que Piastri laisse passer Norris, là, ça commence à trop se voir. Donc, je l'embrasse. Papa, tu vois, il y a une justice dans le sport.
On l'embrasse aussi.
Il a dû filmer sur la qualif aussi, hein.
Je crois qu'il l'a filmé un peu surtout. Non, mais tu vois, Jean-Luc, il y a tout ça, en fait. C'est que, bon, il y a cette histoire. La météo cataclysmique, Louis le disait, t'es 17e, ton adversaire part premier. Au sprint, tu sens que c'est compliqué, t'as pas la meilleure voiture, les McLaren elles sont meilleures. T'as quand même aussi le passif du week-end d'avant où t'as pris 20 secondes de pénalité une semaine plus tôt. Et le gars, en fait, mais mentalement, il y a rien qui l'atteint, quoi.
Ben voilà, écoute, ça c'est la force des champions, une nouvelle fois, c'est la force des pilotes exceptionnels, des champions dans tous les domaines, évidemment, on le sait, on connaît l'histoire dans plein de secteurs, mais particulièrement, puisqu'on en parle en sport mécanique et particulièrement en Formule 1, ils étaient quand même nulle part, ils n'arrivaient pas à la faire marcher cette voiture, là ça faisait 10 Grands Prix qu'ils ne gagnaient pas, qu'ils géraient la crise, et encore une fois, on voit exactement le niveau de la Red Bull, je suis désolé, c'est pas devenu une burne, c'est pas devenu un mauvais instantanément, Pérez. C'est un très bon pilote, mais c'est tout. Alors que l'autre, c'est un champion absolument exceptionnel. Et donc, il a gardé toujours ce moral, il a géré la crise, il a récupéré tous les points qu'il a pu à chaque fois, et il le dit lui-même, oui, c'est probablement ma meilleure course jusque-là. Donc, il faut le croire. En plus, moi, je le dis toujours, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, il faut essayer de mettre l'affect de côté, mais c'est un type sincère, c'est un type franc, et qui bidonne pas, contrairement à plein d'autres. je vais pas commencer à citer des noms, qui racontent des âneries pour essayer de masquer parfois leurs carences. Pas lui, un peu comme Charles Leclerc, voilà deux pilotes qui parlent vrai. Bon, bah là, il a fait une course exceptionnelle, bah il le dit. Et puis voilà, il en tire, c'est normal, la gloire qu'il doit en retirer. Surtout que c'est l'enjeu, évidemment, de la fin de saison. Alors il préfère ne pas répondre à la question concernant le championnat, et ça comme tous les pilotes, et il a bien raison, il dit je vais essayer de faire trois courses clean. Alors oui, c'est très simple, hein, pour ne pas, là aussi, énumérer toutes les situations, ça me gonfle aussi à chaque fois, et si l'autre est troisième, il faut qu'il soit cinquième. On s'en fout.
À Interlagos, c'est pas mal de rénumérer les situations, hein.
Oui, ouais, ouais. Non, mais il faut qu'il termine devant. Et s'il termine à Las Vegas avec 60 points, il est champion. Terminé. Voilà, il en a 62. Donc, bah, c'est tout. Il faut pas que Norris lui reprenne plus de 3 points lors du prochain Grand Prix. Et puis, c'est plié.
Puis,
voilà.
Et puis, en plus, il a un truc vers Verstappen, là, mais il est drôle. Franchement, là, cette saison, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec les médias, en plus,
vous avez vu avec les collègues britanniques, enfin les médias
bien
britanniques.
Sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est que du coup, il y a cette mini conférence de presse là où avec les mecs qui font le podium. Donc il est avec Ocon et Gasly. D'ailleurs, les deux, ils sont explosés de rire. Et il dit tiens, mais il leur dit mais au fait, je vois pas trop vos collègues là de la presse britannique. Ils sont où? Ils sont déjà à l'aéroport ou Non, mais c'est quand même, c'est bon ça dans le champ.
Mais tu sais ce qui m'a vraiment impressionné sur le week-end de Max Verstappen, c'est qu'il a en eu encore des coups durs, des faits de course, tu vois, par exemple la qualif. Je pense pas qu'il y ait vraiment scandale, tu sais, avec le drapeau jaune juste avant, il termine pas son tour où il glisse hors du top 10. C'est ouais. À Austin et Mexico, on sentait la frustration dans son pilotage, très viril, hein, voilà, les passes d'armes avec Norris notamment, les 20 secondes évidemment à Mexico, et la façon dont il a réagi avec cette frustration, parce que voilà, les 20 secondes, tu dois quand même être encore bien énervé. Là, au Brésil, il a encore des faits de course contre lui, mais la façon dont il était totalement imperméable à ça. On savait ses qualités mentales,
j'ai lu
qu'on a parlé.
Être imperméable.
Exactement, oui. Oui. J'ai pas fait exprès. Mais tu vois, la façon dont il a réagi malgré des faits de course contre lui prouve que ça m'a totalement subjugué en fait. Parce que je le sentais, moi je trouvais, pas qu'il, oui il vacillait un petit peu, tu vois, ça le trotte hein, McLaren derrière. Mais la façon dont là, alors qu'il part 17e, il fait, voilà, c'est comme ça, bah, vous allez voir, je vais tout casser. Et il a tout cassé, la façon dont il a transformé la frustration, non pas en énergie négative, mais en énergie positive.
Ah mais c'est énorme. Franchement, il a super champion quoi. En fait, il y a même pas de superlatif à trouver. C'est juste le triple champion du monde qui va remporter un quatrième titre et qui en plus dans des conditions comme ça, sous la pluie, est meilleur que tout le monde. Et d'ailleurs, tiens,
avec Kelly Piquet dans les tribunes.
Ouais, ouais. Et je voulais t'entendre sur un petit truc parce qu'il y a Christian Horner, son boss chez Red Bull, qui a quand même fait une petite comparaison. Il lui a dit, il a dit son premier tour, il était comparable à celui de Senna à Donington en 93.
Jean-Luc, qui était.
Oui, bah, je suis d'accord. Écoute, ouais. Non, mais franchement, je suis d'accord parce qu'effectivement, il a démontré une maîtrise dans ces conditions absolument exceptionnelles, très piégeuses une nouvelle fois, sur un tracé pas évident, resurfacé, on l'a dit, mais qui n'a pas finalement apporté beaucoup de grippe en plus. Je te dis, on avait l'impression quasiment, dans certains cas, qu'il était lui sur le sec, il allumait pas une roue, il glissait pas du tout, alors que les autres étaient en cata, ça se voyait bien. Non, ça c'est le talent, quoi. Parce que, encore une fois, la monoplace, c'est pas la meilleure. Il aurait fait ça aux commandes d'une McLaren, on aurait dit, et moi le premier, ouais, bah, c'est normal, il a la meilleure monoplace, donc elle est bien réglée, il leur tourne autour. Mais là, c'est pas le cas. Il leur tourne autour avec une trapanelle, avec la quatrième monoplace du plateau. Je suis désolé. Hein. C'est pour ça que les autres, là, ont pris un sacré coup et que même Hamilton, et il faut lui rendre hommage pour ça, même s'il l'aime pas, c'est peu de le dire. À mon avis, il se déteste carrément, mais c'est pas grave.
Mais t'as le respect
des
champions.
Il lui a rendu hommage en disant, ouais. Bah, chapeau, là, c'est une belle course, là, je reconnais, c'est génial. Voilà.
Ça reste la confrérie des pilotes. Ce qui est dramatique, Louis, en fait, c'est... En fait, ce qui est marrant dans cette course, et c'est là que tu vois que c'est le point d'orgue de cette saison, malgré tout, je vois pas comment au niveau émotion on atteindra ce qu'on a vécu à Interlagos là, c'est que tu as un Verstappen qui marche sur l'eau, qui roule sur l'eau, plus. Hein. Non mais voilà, le gars, tout ce qui touche, ça se transforme en or là, sur cette course-là. Et tu as forcément la comparaison avec Lando Norris, qui partait en pole position, qui a la meilleure voiture.
Qui partait tout droit aussi.
Qui part tout droit. Mais qui
pas qu'une fois.
Pas qu'une fois.
Qui rate encore son départ, qui rate de restart, qui est pas bon tout simplement, qui est pas au niveau d'un gars qui peut espérer ouais. Être champion du monde.
Bah, toute l'année, on s'est dit, ah, peut-être que là, enfin. Ah, et en fait, non, toute l'année, ça a été son problème. Ils n'ont pas su, que ça soit au niveau de l'écurie, mais aussi finalement au niveau des pilotes, en particulier Norris. Ils n'ont pas su mettre en banque quand il fallait, parce que avec toutes les compétences des voitures, les scénarios qu'on a eus, ils devraient être premiers au classement aujourd'hui, McLaren et Norris, tu vois, grosso modo.
Mais c'est pas sur cette course que tu peux avoir peut-être le plus de regrets.
Non, mais bon, quand t'es dans une espèce de comeback, de remontada, quelque chose comme ça, quand tu as la chance, enfin, c'est pas de la chance, mais on va dire de la chance dans ce cas-là, d'avoir ton concurrent qui a 44 points, je crois, à ce moment-là, d'avance sur toi, qui est 17e et qui pleut des cordes, et toi, tu pars en tête. Tu te dis quand même, il y a mieux à faire à la fin que ça. Ce qu'on n'a pas dit sur Verstappen, quand même, bien que tout ait été merveilleux, il y a quand même un moment, une stratégie et une safety car qui fait que ça rend la chose possible. Parce que sinon, il ne se retrouve pas aussitôt.
Avec Colapinto,
aussi devant. Voilà, quand même. Donc, la chance a été provoquée, comme pour les Alpines, et tant mieux pour eux. Mais il y a eu aussi un petit peu de hasard pour permettre.
T'as bien évidemment des faits de course qui voilà. Oui, bien évidemment.
Mais malgré tout,
est-ce que c'est pas aussi. Je sais pas, c'est de la chance, c'est du bol, mais
c'est
la réussite, ça se provoque.
C'est
pas la chance d'Abu Dhabi 2021. Champion du monde. Là, c'est un pur coup de bol. Il fait tout le pilotage derrière.
Il y a eu des erreurs ailleurs à Abu Dhabi. Là, il y a la course. C'est vraiment la course qui t'amène à faire ça. Et donc, il y a rien à lui retirer. C'est pas ce que je voulais dire. Juste préciser qu'il y a un moment quand même. Il s'est passé quelque chose tu vois, les Alpines, il n'y a pas cette stratégie, on n'est pas là. Enfin, vous savez, moi je dis oui. Mais on n'est pas là. Donc c'est ça aussi. Mais Verstappen, ça restera dans l'histoire, les amis. On sort. Vous étiez où
c'est pas uniquement la course, c'est tellement le week-end qui est fou.
Et oui, pas à 4h, mais ils se sont levés à 4h30.
7h30, je crois, pour eux.
Donc pour être à 7h30 dans la voiture.
7h30, dans les essais.
Le week-end, de toute façon, le week-end, il était fou déjà presque depuis le warm-up quand on a dit, je crois que c'est toi, Arnaud, t'as dit, je crois, il pleut ce week-end, il va falloir regarder la météo. Et en fait, déjà, on pouvait commencer à rêver de choses. Et puis en fait, c'est plus que nos rêves, quoi. C'est x10 par rapport à ce qu'on aurait pu espérer.
Et pourtant, la FIA a failli casser notre rêve.
Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils sont bien appliqués.
C'est leur spécialité de tout bousiller.
Ouais, ouais. Non, quand ils envoient, c'est la première safety car, je crois. Mais laissez les pilotes, en fait, plutôt parce qu'il pleuvait trop à un moment. Laissez-les, il n'y a pas de danger immédiat. Laissez-les.
Ils ont trop piloter. Peur de tout. Hein.
Mais tu dois écouter les pilotes, c'est ça que
alors
je comprends
pas. Alors que les voitures, il y a le halo aujourd'hui. On a fait énormément de choses pour la sécurité,
et
tant mieux.
Et l'accident, il vient quand ? Il vient après leur décision.
Regarde,
parce
Hamilton...
Parce que
les restarts, c'est bien gentil, mais...
Hamilton le dit à Domenicali, vous le savez, en interview. Ouais. Il va le voir, il l'interrompt et il lui dit « Mais pourquoi vous ne nous avez pas fait rouler ?» Alors, c'est là qu'il y a un vrai problème aussi, c'est que Domenicali, je suis désolé, c'est le patron de la FOM, c'est pas le patron de la FIA. On a l'impression, on mélange les genres, là aussi. Pour moi, l'aspect sportif, enfin jusqu'à preuve du contraire, c'est la FIA, oui ou non ? En tout cas, c'est censé être la FIA qui décide au plan sportif. Là, on parle au patron commercial. Donc, c'est malheureusement ce que je déplore de plus en plus. Ça devient un spectacle. Le sport, il est bien loin.
Parfois, il y a des conditions frustrantes parce qu'on a l'impression qu'en piste, on peut prendre la voiture. Mais si l'hélico ne peut pas décoller, de toute façon, ils interdisent. Et je crois que c'était un peu ça aussi.
Alors au pire, mais ça s'est produit un moment, ça a pas été tout le samedi après-midi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Non.
C'est tous les petits ingrédients, vous pouvez pas chauffer vos pneus à telle température, etc. C'est aussi toutes ces petites choses du règlement. À un moment donné, voilà, c'est de la course automobile.
Non, mais leur règlement, ils le connaissent même pas à la FIA, puisque parfois ils se prennent les pieds dans le tapis.
Tiens, regarde. Alors, Lando Norris non plus sur les départs avortés.
si les qualifs n'avaient malheureusement pas eu lieu, parce que moi c'est ça que je craignais par-dessus tout, c'est-à-dire qu'on est décidé, et là ils avaient plein pouvoir pour faire n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, parce que dans le règlement, il y avait trois cas qui pouvaient s'appliquer, donc ils choisissaient ce qu'ils voulaient.
Tu avais les derniers essais libres, c'est ça? Tu pouvais prendre l'ordre des derniers essais libres.
Alors, tu pouvais prendre exactement, c'est-à-dire en fait la FP1, puis il n'y en a eu qu'une. Donc tu prenais. Bah oui. Alors ce qui voulait rien dire, parce que je me suis amusé à regarder, je l'ai même annoncé à l'antenne. C'était n'importe quoi, parce qu'évidemment il y a des pilotes qui mettaient au point, ils n'ont pas du tout cherché à faire une perf. Donc c'était une hérésie. Après un moment, il y avait un cas où ça pouvait être l'ordre du classement du championnat. Après tout, pourquoi pas? Ça existe dans d'autres domaines, notamment en IndyCar. Hein. Ça fonctionne comme ça depuis des années. C'est pas plus mauvais ou pas meilleur qu'un autre. Mais bon, il y a pas de qualif, on fait comme ça. Enfin bon, c'est du genre du grand n'importe quoi. Puis je te dis, les règlements maintenant en Formule 1, ils sont tellement complexes et personne, je dis bien personne, y compris les membres de la FIA, n'est capable de les connaître. Donc il y a des clauses contradictoires. Voilà. Alors il faudrait dépoussiérer tout ça. Là, il y a du boulot. Hein.
Ouais. Ça c'est clair. Rouvrons un peu quand même le dossier Norris là. Jean-Luc disait McLaren est mauvais. Ils ont jamais su tirer profit de leur voiture. Louis, tu disais ça aussi, Arnaud.
À son départ déjà.
Ouais, non, bah, t'as son départ.
C'est même, départ. Toute la saison. Oh,
ouais. Mais c'est bien, c'est jamais la même. Oui. Parce que l'envol était correct.
Ah bon.
Mais c'est des, je sais pas, c'est le deuxième ou troisième rapport.
Deux, troisième rapport, exactement. Oh. Ouais.
Au moment, il y a un coup de patin, là. Tu le vois. Non,
puis t'as ces déclats d'après-course qui. Tu sens l'impuissance du gars, quoi. Quand il dit que Verstappen aurait pu nous mettre un tour, Arnaud, enfin, il passe complètement à côté. Et puis, tiens, bah, d'ailleurs, avant de te faire réagir, on va l'écouter, Lando Norris, parce que. C'est vrai que pour le coup, il est plutôt, c'est plutôt un gentleman en interview, hein, Lando. Là, tu sentais quand même, il les avait là, quoi.
A little bit disappointed. I made a couple of mistakes. They cost me two positions. But
ouais, on est déçu. J'ai fait quelques erreurs. Ça m'a coûté deux places.
We pitted at the right
time. Mais bon, il y a beaucoup de malchance, hein.
The others got a free pit stop, which was unfortunate.
On s'est arrêté au bon moment. Les autres ont eu un arrêt gratuit. Ils ont eu de la chance. On a fait ce qu'on pouvait. J'ai pas fait une course
Max
parfaite.
Max could be champion in Las Vegas. Do you think it's over for you now?
Max pourrait être champion à Las Vegas. Est-ce que c'est mort pour vous? Voilà. Je ne sais pas. Je ne prédis.
Voilà. Ouais, bah, c'est ça.
Bon. Bon, il a compris, Lando. Non, mais Arnaud, tu vois, c'est ça. Parce que là, il te dit, ouais, on a eu de la malchance. Mais en fait, à chaque
la
fois.
La malchance,
que...
ça se provoque aussi. Hein.
Oui, ouais, c'est ça. Non, mais à chaque fois qu'il peut un peu inverser le truc lors de la course d'hier, là, il n'y arrive pas. En fait, il subit tous les événements, Norris, hier.
Et puis, il se viande ces deux fois dans le virage 1 au bout de la ligne droite, hein, où il tire tout droit.
Faut pas l'oublier.
Et des erreurs comme ça, c'est. Tu sais, il y a quelques semaines, je disais, j'ai toujours du mal à voir des ingrédients de pilote champion du monde chez Norris. Bah, plus le temps passe, plus je me conforte dans cette idée. Je n'exclus pas un jour de changer d'avis, mais là, il fait trop d'erreurs. Il y avait des circonstances de course à Austin, à Mexico, mais c'est let them race, laissons-les courir. Voilà, il y a eu des sanctions pour lui et ensuite pour Verstappen, mais derrière le package global de la régularité, de la performance, alors qu'il a la meilleure voiture, bah, il n'est pas présent et il ne va pas être champion du monde. Il devrait être vice-champion du monde, hein. Leclerc fera 3 sûrement, McLaren a des chances d'être titré au niveau du constructeur, mais Lando Norris, peut-être que dans une carrière, des opportunités d'être champion du monde, t'en as pas 50 000. Est-ce que là, il est pas en train de laisser passer le train tout simplement?
C'est un énorme désaveu, Jean-Luc, pour McLaren. Quand tu vois la perf de la monoplace, des monoplaces, depuis maintenant quoi, l'été.
Ah oui, depuis Miami même. Miami.
Ouais, hein. depuis même Miami. C'est quand même incroyable de le voir à 62 points désormais de Verstappen, avec ce niveau de perf.
Ouais. Oui, c'est même sincèrement inadmissible, je te dis. Bon, c'est vrai qu'on a tendance un peu à j'allais dire amplifier ces critiques, et c'est ce que je vais faire maintenant. Quand je dis ils sont nuls, ils sont pas totalement nuls, mais ils sont pas bons, quoi. Ils sont pas malins. J'allais vous dire, est-ce que l'un d'entre vous, dans toute la saison, a vu un moment où stratégiquement ou en termes de décision ou d'opportunisme, McLaren a été malin? Bah non. Cherchez pas, il y en a pas. Ça veut dire que ils ont la meilleure monoplace, ils ont deux excellents pilotes, parfait, mais ils sont pas foutus de concrétiser, pas plus que ça. Alors certes, ils sont en tête du championnat constructeur, on va se polariser là-dessus maintenant, même si bon, le championnat pilote, malheureusement, c'est un sport mécanique. Hein. Je dis malheureusement parce que tout peut arriver, mais Norris, il mérite pas d'être champion du monde. Voilà, je peux déjà le dire. Pour moi, il mérite pas du tout. Donc c'est normal que ce soit Verstappen qui est le meilleur pilote, avec encore une fois la quatrième voiture du plateau. Bon, au championnat constructeur, bah, ils n'ont plus que 36 points d'avance sur Ferrari. Et on va voir, dans des conditions normales, à Las Vegas, passe, et puis après au Qatar et à Abu Dhabi, si la Scuderia n'est pas capable de combler 36 points en 3 Grands Prix. Hein. Ça fait 12 ouais. points par Grand Prix, ben moi je peux te dire que si. Et puis même derrière, Red Bull n'est qu'à 13 points. Si par hasard, au lieu de mettre Bernardo Pérez dans la voiture, on remet Sergio au bon moment, non, ou on remet Liam Lawson ou je ne sais pas qui, mais en tout cas un pilote qui avance, ben tu vas voir que Red Bull, c'est pas mort non plus. Hein, parce qu'ils ne sont, ils sont pas très loin. Ils sont pas très très loin de McLaren finalement, parce que McLaren n'arrive pas à scorer comme ils le doivent. Voilà.
Est-ce qu'ils peuvent, Louis, se relever après avoir pris cette énorme tartine là, cette énorme tarte dans la tronche? Parce que là, clairement, là, j'imagine que le réveil ce matin, il a fait mal, quoi.
Ah ouais, là, il a dû être très violent. Je pense que ça viendra de leur voiture en fait. C'est-à-dire que quand on va retrouver des conditions normales. Tranquille, ils ont quand même encore aujourd'hui la meilleure voiture. Et du coup, ils vont pouvoir se remettre finalement en étant bien placés et en se disant bon, allez. Mais je pense quand même, malgré tout, au fond, tu vois, là maintenant, je pense qu'ils sont passés dans un truc, ok, on finit la saison propre, mais qu'ils ne se sont pas réveillés ce matin en disant allez, il nous en reste une. Je pense quand même ils ont un petit peu enterré au fond d'eux le championnat pilote de Norris. Ils vont se concentrer sur le constructeur. Ils vont continuer à faire n'importe quoi entre les deux là, et tiens, je te laisse passer au dernier tour du sprint.
Non mais ça c'est pas.
Et Vicky, mais waouh, ça fait 3 mois on dit que Piastri est deuxième, voulez-vous tout pour Norris? Enfin, ça me paraît tellement simple en fait que je me dis, mais il y a un moment, l'ego, ben, mince quoi.
Ils auraient mérité de pas pouvoir changer les positions et qu'il y ait la safety car, tu vois.
Ouais, bah, oui. Ah ouais, non mais alors,
que
Arnaud,
ça sorte et qu'il soit piégé.
Exactement, ouais. Vous auriez mérité ouais. d'avoir le nez dedans, parce que franchement, d'être empoté pareil, quoi, enfin, c'est incroyable. J'étais fou. C'est une écurie que j'apprécie, mais même juste de l'extérieur en fait, tu dis, Mais décider, trancher, quoi, c'est quand même dingue.
Non, mais c'est ce que disait Jean-Luc, les gars, c'est qu'il n'y a eu aucune bonne décision stratégique sur la piste, que ce soit dans la gestion des pilotes, que ce soit également dans l'approche des courses, dans le fait de varier la stratégie entre les deux voitures. Il y a eu un truc un peu innovant, un peu créatif, où ils ont tenté des choses et où en fait ils étaient vraiment là pour aller chercher un titre en fait, parce que pour aller chercher un titre, ça suffit peut-être pas d'avoir la meilleure voiture, il faut peut-être autre chose finalement quand t'as autant de concurrence.
Si tu l'as toute la saison, ça suffit, mais quand tu l'as comme eux,
quand tu l'as 6 mois sur 12,
voilà, 6 ouais. mois sur 12, bah il y en a un autre qui du coup pendant 6 mois sur 12 c'était lui, et lui dans ce package où faut savoir gérer 6 mois plus compliqué, mais il est des années lumière devant toi, Alors lui, t'as l'impression que c'est un extraterrestre qui a besoin de personne. C'est-à-dire que même si ça se passe bien derrière et tout, à un moment, il dit à Gian Piero, là, il lui dit « Allez, c'est bon, tu te tais, maintenant je conduis et je termine premier, je vous ramène la couronne. » T'as un peu cette sensation qui est parfois déroutante. Mais c'est vrai que de l'autre côté, chez les papayas, mais t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va à part la voiture. C'est déjà pas mal. Il y en a d'autres, c'est l'inverse.
J'ai deux questions ouais. pour vous. Déjà, j'aime bien, vous savez, prendre ma petite calculette. J'ai regardé depuis la pause estivale et donc depuis Spa, la différence de points pris entre Norris et Charles Leclerc, à votre avis.
Alors, Spa inclus ?
Spa inclus.
Spa inclus. Alors attends, parce que moi, j'ai pareil, je vais essayer de calculer rapido. <Non. rire>
Ah mais tu triches là !
Bah ouais, non, allez, à la louche. Ouais. À la louche comme ça. Bah tu sais, ça doit pas être très loin l'un de l'autre. On parle bien Verstappen-Norris, hein, on est d'accord ?
Non, de Norris-Leclerc.
Ah pardon, autant pour moi. Autant pour
20 points.
3 points. Lando Norris a pris que 3 points de plus que Charles Leclerc. Et tu vois,
c'est lui. Il en gagne 2, il gagne l'Italie et.
Exactement, et Austin.
Et Austin. Ah,
et
Austin.
Voilà. Et ça illustre Norris, et je pense à cette place au classement mondial des pilotes, parce que très performant en qualif, donc tu pars dans des positions quand même beaucoup plus aisées, mais que derrière, il a du mal à scorer. Et quand on voit peut-être un des meilleurs pilotes en course qui est Charles Leclerc, bah tu vois comment il peut rattraper
et qui a raté quelques points en plus ces dernières courses en plus. Il a pas tout mis dans la boîte, donc ça veut vraiment dire que Norris ça va pas.
Et
il
puis,
en manque.
Regardez vraiment. La Hongrie. Voilà, j'allais c'est à ce symbole que je pensais tout à l'heure, mais je voulais pas vous interrompre. La Hongrie. Comment McLaren se loupe avec leur stratégie à 2 balles. Ils sont obligés de redemander après, ah s'il te plaît, dis donc, tu vas le laisser. Donc ils demandent à Norris de laisser repasser Piastri. Mais attends, c'est des bouffons là.
Et j'ai une deuxième question, cette fois-ci elle est totalement ouverte, enfin, même si vous pouvez répondre par oui ou par non. Si Carlos Sainz était dans le baquet à la place de Lando Norris, est-ce qu'il serait actuellement en tête.
J'aime bien cette question.
Moi, je pense que oui.
Moi, je dirais oui parce que sur les dernières saisons, Sainz a montré une chose, c'est que quand ça comptait, il était là. Ce que Norris n'a pas forcément.
Après, c'est toujours. C'est quand même
on peut
différent
faire un peu de fiction.
C'est de la F1 fiction.
Oui, non, mais alors.
Il est plus solide, Sainz, à part ce week-end où il se loupe deux fois. Mais je pense qu'il est plus solide, ouais. Ouais.
J'ai envie de te dire non. Enfin,
c'est pas une contradiction.
Non, mais parce que, en fait, bien sûr que là,
oui, c'est facile.
Si tu regardes la saison, le palmarès de Sainz qu'il a fait avant, bien sûr que tu peux te dire
les qualités du pilote.
Voilà, mais maintenant, conduire quand t'es à 40 points d'un titre de champion du monde avec une voiture qui est dominante et cette pression-là, peut-être que même Sainz, tu vois, il gérerait mal ses émotions. C'est toujours moi, franchement. Je sais pas. Et puis en plus de ça, quand même, Norris, il passe un peu là pour un pimpin aujourd'hui. Mais c'est peut-être juste qu'en face, il a un ovni en fait. Tu vois, et que
ça c'est sûr, et que
n'importe quel pilote peut-être qui serait face à un Verstappen agressif comme ça, avec ses déclats en conférence de presse, avec cette attitude, et peut-être que tout le monde serait un peu intimidé par ce gars-là, non?
Peut-être.
Ouais, mais et quand même, Nico, on lui laisse deux fois la place là. Et c'est arrivé rarement. Tu me diras, il y avait pas deux courses. En un week-end, deux fois, on dit à Piastri, allez, tu te couches, tu le laisses passer. Ouais. Et lui, gentiment, ok, on y va. Et puis il en fait ça. On le laisse passer. Il ne fait que ça, Norris.
Ouais. Et puis hier, quelle que soit la course merveilleuse de Max Verstappen, rien ne t'empêche, toi, en partant en pole, d'être un, voire deux, au pire, si l'autre est trop fort.
Oui, totalement. Non, mais t'as raison.
Il fait pas deux hier. Il fait, je sais même plus combien il fait. Il fait six parce que Piastri le laisse. Donc, si ça veut dire qu'il devait faire sept. Enfin, tu vois, donc, moi, j'ai été souvent l'avocat ici de Norris. Là, j'avoue que sur cette fin de saison, ouais, alors, comme dit Arnaud, j'espère qu'il en aura une autre parce qu'avec la maturité ou quoi, moi, je pense pour le coup que si les planètes s'alignent, il peut l'année prochaine
avec la réglementation.
Voilà, c'est ce que je pense. Moi, je serais un peu moins catégorique, mais c'est vrai que sur cette saison, clairement, il n'était pas en 2024, Lando Norris n'est pas au niveau pour être champion du monde. Maintenant, on verra l'année prochaine. Ouais.
Ah les amis, c'est l'heure maintenant la Marseillaise.
Lance Stroll, non, on parle pas de Lance Stroll.
Oh. Allons enfants de la patrie, les amis, on y est.
Le drapeau, le coq.
Deux pilotes français sur un podium. Esteban Ocon deuxième, Pierre Gasly troisième. 30 ans que c'était pas arrivé hein, sur en F1. 97. Deux Français sur le podium.
Jacques Villeneuve. Ouais.
Alors 97. Attends,
d'une écurie française ou deux Français?
Deux Français sur le podium. 94, deux Français au volant d'une F1 française, même si Alpine est-elle vraiment une écurie française et une Formule 1 française? Le débat reste
Tant qu'elle a le moteur encore derrière, oui.
Oui, tant qu'elle a le moteur, voilà.
Oui, mais bon, quand t'entends les déclats, les mecs ils te disent ils parlent que d'Enstone. Bravo Enstone. Mais t'as pas un mec qui va dire. Congratulations, Viri.
Il y a un peu du Viri quand même, genre.
Ouais, mais Viri venait des pilotes, principalement.
Oui.
Bon, Jean-Luc, quand même. Toi, t'en as connu des Français sur le podium, des victoires françaises. Oui. Mais celle-là, en fait, elle est particulière parce que elle sort de nulle part. Ouais. Qu'en plus, c'est Esteban Ocon et Pierre Gasly, deux gamins qui ont fait tout leur parcours ensemble, deux pilotes qui, roulaient ensemble en karting, d'ailleurs dans des conditions similaires, sous la pluie. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ils ont ce niveau-là, dans ces conditions-là. Mais en fait, l'histoire est tellement belle hier et on sait qu'ils ont des petits soucis relationnels. Ils l'ont dit dans leurs interviews, on va les écouter plus tard, mais notre histoire, elle est ce qu'elle est. Et là, ils étaient juste trop contents d'être ensemble sur le podium, Jean-Luc.
Oui, c'est fantastique. Écoute, sincèrement, il y avait des regards qui ne trompaient pas, des attitudes qui ne trompaient pas. Et puis, je te dis quand même, Alpine, forcément, est une marque jeune en Formule 1. On a seulement 6 podiums, dont la victoire d'Ocon en Hongrie en 2021, on le rappelait tout à l'heure. Là, voir les deux pilotes encadrés Verstappen, surtout sur un Grand Prix aussi emblématique, aussi magnifique, aussi difficile, avec tout à jouer comme il fallait tous les deux. Non, moi, je pense qu'une nouvelle fois, on va faire un tout petit peu de revenir sur des moments difficiles. On les a très très mal gérés chez Alpine à une époque. Je pense qu'ils pourraient être restés tous les deux parfaitement chez Alpine si on avait su effectivement calmer les égos, les rassembler au lieu de les diviser, etc. Et au lieu de faire des grandes déclarations à l'emporte-pièce. Donc réjouissons-nous de ce moment. Il y avait des larmes dans les yeux, hein, vous avez vu de pas mal de mécanos, de pas mal de membres. Parce que c'est fabuleux. Alors tu parlais des autres équipes, bien sûr. Moi j'ai J'ai même connu, évidemment, Matra. Alors, je ne travaillais pas à l'époque, hein, mais Matra, 9 victoires, 4 pôles, 21 podiums. Il faut le rappeler quand même, à la très, très grande époque, avec Jackie Stewart, François Sever, avec tous les grands pilotes, Pescarolo. Il y avait Ligier, après, vous vous rappelez quand même de Ligier,
oui,
avec Lafitte, De Payet, 9 victoires, 9 pôles, 50 podiums, c'était pas rien. Et puis, bien évidemment, Renault, qui est resté longtemps en tant que tel, 35 victoires, 51 pôles et 103 podiums. Bon, bah écoute, croisons les doigts pour qu'Alpine.
T'as oublié Prost Grand Prix, hein?
C'est vrai. Non, j'ai pas cité toutes les équipes parce que sinon, dans les équipes françaises, il y en a d'autres. Hein. Il y a même eu Bugatti, il y a eu tout un tas d'équipes, il y a eu Larousse, il y a eu etc. Non, je parle de ceux qui ont
gagné. Sans parler performance, la Prost Grand Prix, niveau juste. La bagnole
esthétique
en bleu là. Avec Bic,
Gauloise, PlayStation. Oh. Moi,
j'y vais bien sur les jeux vidéo là.
Ah ouais, ouais.
Ah puis c'était bien parti avec Olivier, vous vous rappelez, avant son accident au Canada. Hein. Ouais. Ah ben là j'étais sur tous les grands prix, on était très proches puisque pour tout dire, je bossais pour Canal et Canal était partenaire de Prost. Alors je peux vous dire que là j'ai vécu avec eux tout le temps, hein, y compris l'accident d'Olivier au Canada d'ailleurs. Mais bon, c'était parti formidablement bien. Ouais, bon, il faut oser dire aussi qu'à l'époque c'était quasi la Benetton de l'année d'avant, voilà pour vous dire. Ça a aidé quand même bien, mais bon, 96 ça aurait pu être une année fabuleuse, absolument.
Vous savez ce qu'on va se faire, les gars? Déjà je vais vous donner une petite stat. Alpine en deux jours a pris 35 points
sur que Sergio Pérez.
C'est pas 36,
en un an 34. T'imagines, tu fais mieux en deux jours qu'en un an. On va s'écouter à la chaîne Esteban Ocon et Pierre Gasly parce que faut les écouter pour percevoir cette émotion, le bonheur d'être sur le podium après une saison si galère et surtout de se retrouver eux tous les deux, ceux qui roulaient ensemble en karting quand ils avaient 7, 8, 9, 10 ans, ensemble sur un podium de Formule 1.
Enfin, je sais pas si c'est un rêve ou si on est dans la réalité ou je sais pas parce que. Clairement, où on était hier, ça semblait pas possible de pouvoir remonter autant et d'avoir autant de performances aujourd'hui. Aujourd'hui, on était en tête de ce Grand Prix. J'y ai cru pendant un petit moment. J'arrivais à distancer Max. Malheureusement, il était plus rapide que nous sur cette dernière stint. Mais ouais, je suis très heureux aussi. J'y pensais en fait même dans le dernier tour. Je me suis dit, ça va être incroyable juste de faire un podium tous les deux. C'est un peu comme la bonne époque, non, quand on était sur le podium à Essay ou à Anvil, les petites pistes de karting dans notre coin, un peu avec les mêmes conditions aussi. C'est des conditions qu'on a toujours vues et voilà, c'était je pense une image qui restera gravée pour moi de faire ce tour de formation tous les deux côte à côte. On a nos histoires, mais je pense que, en tout cas, celle-là aujourd'hui, elle est magnifique.
Ouais, c'est historique. Franchement, un doublé pour nous, P2, P3, avec la saison qu'on a, c'était inespéré. Franchement, c'est difficile de trouver les mots. Je suis vraiment super heureux pour toute l'équipe. Non, mais c'est juste très beau. C'est très beau par rapport à toute l'histoire, ce qu'on construit avec. Même avec Esteban, voilà, on a nos bars, on a notre histoire personnelle qui ne regarde qu'à nous, qui est unique. Mais après, voilà, on vient du même endroit, on vient tous les deux de Normandie, on est de la même génération. Et voilà, aujourd'hui, ça fait un très beau podium entre Max, lui et moi.
Merci beaucoup et encore bravo
merci,
pour les émotions.
Merci à tous les gens qui nous soutiennent. On vous voit, ça nous fait toujours plaisir et passez pas inaperçu. Merci.
Ouais, on a laissé avec le diffuseur Canal Plus là le petit message de remerciement de Pierre Gasly.
Mais l'émotion, c'est.
Ouais, Arnaud, c'est. Tu sais quand tu les entends là, t'as la banane quoi, t'as le sourire, t'es là, tu te dis mais quelle histoire quand même.
Non et puis même si il reste 3 grands prix, je pense que c'est quelque part. Presque le point final, puisque évidemment Esteban Ocon va partir, que ça a été dur, qu'il y a eu des tensions entre les deux, mais que je pense qu'il y a du respect. Déjà, ce sont d'excellents pilotes, parce qu'ils ne font pas cette perf-là s'ils ne sont pas des bons pilotes, et ça on le savait, avec une voiture qui allait de mieux en mieux quand même.
Surtout
ces derniers
temps. De Pierre, hein, parce que le pauvre Esteban.
Il n'a pas eu les évolutions et que les fins de contrat font. Mais ce n'est pas forcément propre qu'à Alpine.
Voilà,
hein.
Il y a des choix.
Ce genre de choses, l'inverse, des deux
pilotes. Ça aurait été bizarre, là c'est logique.
là, la pensée pour tous ces gens qui souffraient aussi, les équipes d'Enstone, les équipes de Viry-Châtillon, parce que c'est pas évident quand t'es dans une spirale négative, que tu vois tes pilotes essayer de se battre, que la voiture marche pas, de tout l'environnement autour, on va arrêter les moteurs à Viry-Châtillon, ton management au-dessus qui arrête pas d'évoluer, des départs d'ingénieurs, donc voilà, que ça apporte du baume au cœur aux petites mains de cette écurie, ça m'a donné le sourire vraiment.
Tu vois. La vidéo du bord des stands, même du bord de piste, là, quand ils montent tous sur la grille et qu'ils regardent la première voiture de leur écurie passer, la seconde, et qu'ils sont tous en folie et tout. Tu imagines, on dit souvent, vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que là, on imagine tellement, ça fait quoi? Ça fait pas un an que les gars ils sont dans le dur, hein, ça fait plus. Là, franchement, le double podium, je pense que c'est la soupape que ça a dû être pour toute l'entité alpine. Je pense qu'à chaque poste, il y a un sentiment. On parlait du réveil McLaren ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, le réveil alpine, ils ont dû se réveiller un peu léger et ça doit faire un bien tellement fou. Nous, à notre petite échelle de supporters, parce que bon, nous quand même, ouais. Quand il y a une mauvaise course le lundi, on va au boulot et on passe à autre chose, tu vois.
Faut le dire, non, mais faut le dire quand même, on les a asmatés toute la saison aussi.
Mais on les a asmatés parce qu'ils étaient nuls, enfin, je veux dire, on les a pas asmatés gratos non plus. Ouais. Voilà, moi, je suis le premier, moi, je parle avec mon cœur avec Alpine.
Qui aime bien, châtie bien.
Voilà, quand ils sont nuls, voilà. Je pleure au micro et quand ils sont heureux, on fait la fête ensemble. Et ça, c'est clair et net, mais on les a pas avoinés gratos et c'est sûr qu'on les a. Ouais, on leur a mis cher parce que c'est terrible et parce qu'ils l'ont mérité aussi. Il y a tellement de choses. Et il y en a deux qui ne l'ont pas mérité. C'est les pilotes qui n'ont rien lâché pour le coup, même en com ou quoi. Et il n'y a pas un demi-week-end où ils n'étaient pas là. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Parce que je pense qu'on a tous connu dans notre vie pro ou privée des moments où c'est un peu plus dur. Et quand il faut aller au charbon tous les matins, il y a des jours, tu y vas à 90 plutôt qu'à 110%, tu vois. Et eux, on a senti vraiment un 100% tout au long de l'année. Et tu le vois d'ailleurs quand la voiture est un tout petit peu meilleure, tout de suite, bam, ils reprennent 3 à 4 places, machin. Et moi, le mini regret que j'ai sur la course de Verstappen d'hier, parce que quand même, c'est que ça cache un petit peu celle de Pirot. Gasly, il fait plus 10 places. Il fait une mauvaise qualif pour le coup. Il fait plus 10 places. Et ok, il y a la strat et tout. Mais il fait une course monumentale.
Aussi, hein.
Et il n'y a que deux pilotes qui ont fait zéro erreur dans la course avec Verstappen. C'est Esteban Ocon, Pierre Gasly. Et ça, faut le marteler parce que ces deux mecs-là, ils n'ont peut-être jamais eu la chance d'être dans la bonne voiture au bon moment. Mais eux aussi, c'est du World Champion matériel. Hein. Vraiment. Ouais, j'insiste. Hein. C'est vraiment deux monstres. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la
pluie... dans une McLaren alors.
Ouais, non mais voilà. Non mais on entend des folies et peut-être que Sainz après deux week-ends finalement il irait chez Red Bull. Mais alors pourquoi comme dit Arnaud, on peut laissons-nous rêver. Lando, t'es pas si bon. Allez hop dans l'Alpine.
Non mais Jean-Luc, il y a aussi un moment. Bon là on a eu les interviews faites aux diffuseurs français, mais ils répondent à une télé internationale et en fait le diffuseur international les réunit. Et ils sont ils sont en train de s'enlacer. T'as Ocon qui regarde Gasly quand il parle, mais avec des yeux comme si en fait toute leur tension s'était un peu évaporée là, et que c'était un moment de grâce qui vivait.
Bah, c'est tout à fait ça. Ils l'ont dit, hein, tous les deux, avec leurs mots. Ils ont leurs histoires, ils ont eu leurs histoires. Ils ont effectivement un passif que seuls eux connaissent, là aussi. On avait bien compris, ils n'ont pas le même caractère non plus, probablement pas la même manière de vivre, pas les mêmes positions sur plein de problèmes sociétaux, etc. Peu importe, là, ce sont des pilotes, dans l'exercice de leur talent, le plein exercice de leur talent, qui ont traversé des moments très difficiles. Encore une fois, on n'a pas su les gérer au sein de l'équipe, malheureusement. Donc au contraire, on les a presque montés l'un contre l'autre, ce qui était affreux. Faut jamais faire ça. Je crois que c'est une erreur psychologique grave. Et là, je crois que c'était une sorte de communion. Hein, on peut dire ça comme ça.
Ouais.
Et puis
c'est ça, de communion.
Ouais. Communion dans la joie, là, puis monter sur un podium de F1, quoi. On les voyait là-haut, ils étaient sur un nuage, comme tu dis, ils marchaient sur l'eau. Et puis, tu sais, à propos de nos critiques, comme on dit, quand sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Oh. C'est aussi simple que
ça. Là.
De temps en temps, tu sais.
C'est le Figaro,
on a peut-être perdu des auditeurs, là.
C'est pas grave.
J'ai voulu faire le malin en sortant l'auteur et je l'ai plus.
Moi, j'attends le futur livre de Jean-Luc sur la philosophie.
Tout le monde peut comprendre. comprendre en tout cas. Non, non, mais blague à part. Bah oui, quand c'est nul, on dit que c'est nul. Et puis quand c'est très très bien, on dit que c'est très très bien. On vient de l'évoquer à propos de Norris. Hein, s'il est champion du monde la saison prochaine, avec une course et puis surtout une saison formidable où il montre beaucoup de caractère et beaucoup de talent, on va être les premiers à dire bah, l'an dernier il était mollasson, mais là il est dedans. Ce qui serait stupide et ce qui serait odieux et ce qui serait pas notre boulot à mon avis, c'est de les encenser tout le temps ou de les critiquer tout le temps. Voilà, c'est tout.
Ça c'est sûr. Et puis les copains, c'est quand même un petit week-end à 29 millions pour l'instant, hein, parce que il y a un gap de 3 places. Alors attendez, je vais vous retrouver le classement constructeur là, je l'ai sous les yeux.
Donc 49 points.
On était 9e à 16
on
points.
Était, exactement.
On avait
bah,
un point
fais,
de moins que.
Que tu que fais plus 3 William. Places. Ouais. T'es à 3 points devant les As.
Tu payes ton moteur pour l'année prochaine.
Mais oui. T'as 5 points d'avance sur RB. Tu payes ton moteur pour l'année prochaine.
Je voulais démontrer que c'était, tu vois.
Et ben alors justement, on est avec Flavio Valadombriator. Flavio Valadombriator, est-ce que vous êtes là?
Ok, yeah, je le maîtrise pas encore. Je voulais vous dire que 30 millions, c'est la meilleure affaire que j'ai jamais fait. Je vais avoir une augmentation. Tu vois, je l'ai pas encore, le Flavio. Jean-Luc le fait bien.
C'est démontré. Ben oui, c'est comme ça. C'est démontré que les sports, la Formule 1, c'est fun. Alors à l'époque, tu pouvais le dire. Maintenant, tu peux plus. Mais il y avait les filles, c'était rigolo. Il y avait les soirées, il y avait l'alcool, il y avait d'autres choses.
Flavio va vous brouiller. Ça commence à partir en sucette, Flavio.
Je vais prendre une amende de la FIA. Tu n'as pas le droit.
Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on imite des gens, allez écouter le débrief du Grand Prix de la semaine dernière. Après Mexico, on a eu un Arnaud Valadon vraiment incroyable. Mais
faut savoir que le paddock évolue, c'est devenu un peu
Gunther,
hybride.
Qu'est-ce qu'il en pense alors du club.
Non mais je pense que la prochaine, alpine. Je pense que la prochaine imitation que je pourrais faire, c'est Lance Stroll.
Pas mal.
Obviously, I don't know what happened. I'm okay, guys.
Et t'as déjà trop d'enthousiasme.
Il est... magnifique, hein, quand même, Lance Stroll. Hein.
Ouais, lui, il en a fait
il
une
a
belle.
Il a été impérial, oui, c'est vrai.
Et Guanluigi, encore dernier, mais il a fini la course.
Ouais, mais tu vois, il fait c'est pas vrai. Bosser ses mécanos deux fois par jour. Contrairement à Lance Stroll. Lance Stroll, c'est fou, quoi. Les gars, ils ont bossé d'arrache-pied 3 heures et tout. Ils le voient se planter dans le tour de format. Je pensais juste à eux dans leur tête, en fait. Juste, tu sais, t'es là, tu sais que t'es pas le plus gros sale. Tu dois avoir quand même. Ça doit être dur parfois. Il pleut des cordes. Tu as mis la tête dedans depuis 4 heures du mat parce que et machin et le gars il te la met dans le tour de formation quoi. Tu dois avoir
envie bac à sable. Mais c'est ça ce que
c'est peut-être le pire, le bac à sable parce que il tape, il peut repartir et il repart dans le bac à sable.
Non mais ouais, c'est vrai, c'est en deux temps.
Eh les gars, moi j'ai une question quand même parce que juste pour fermer le chapitre Alpine là, ils vont la garder leur 6e place ou pas? Ah. Quand tu vois les perfs de Haas, ça va être dur.
Attention à Haas, parce que là, on est à Disneyland là, depuis dimanche. Attention au retour à la réalité. Attention à Haas, qui est quand même très consistant, avec deux pilotes qui le sont aussi, même si Magnussen... Oh là, et Berman, et les jeunes. Faudra qu'on fasse un petit mot sur les jeunes, c'est fini.
Bien sûr, ça
la fin des jeunes. Mais j'en étais où, je me perds moi-même. Donc les As très consistantes, deux voitures correctes. Je pense qu'elles sont encore un petit peu devant, surtout grâce au top speed, devant les Alpines. Donc ça va un peu jouer à ta qualif. Enfin, tu vois, ça va vraiment être chaud en mettant quand même, bien que Alpine soit devant désormais, un temps d'avance pour Haas, pour moi.
Puis peut-être la course sprint, où là, le moindre point vaut cher. Peut-être que ça vaut le coup de mettre en place...
C'est où ça? C'est au Qatar?
Il y a Qatar.
Qatar.
Oui, le Qatar.
À Losail.
Bah, parlons des jeunes, tiens. Ouvrons le dossier des jeunes. Jean-Luc, c'est vrai que nous, depuis le début de saison, on est dithyrambique, impressionné par le niveau de ces pilotes qui arrivent en Formule 1 et qui profitent de la moindre occasion dès qu'ils peuvent le faire. Là pour le coup, dans des conditions comme ça dantesques, où bien évidemment qu'il faut avoir de l'expérience, bien évidemment il faut aussi avoir énormément de courage, c'est plus compliqué, ça a été plus compliqué pour eux.
Alors c'est plus compliqué, si vous me permettez j'en sors un quand même, hein. C'est Liam Lawson. Et oui.
Ouais. Pardon Jean-Luc, bien sûr, lui très propre, il faut le sortir.
Et Lawson, il termine 9 et il tient Hamilton en plus plusieurs tours. Non, il fait un boulot remarquable. Lawson, tu vois là, je sais pas ce que vont décider Marco et
Horner.
Et, et Horner, mais moi je le verrais bien dans le baquet de Perez, ouais. Mais sincèrement, hein, c'est vachement simple, tu switches, là, tu fais pas de drame, et bah ouais. Et Lawson, il le mérite largement. Et depuis qu'il est revenu, là, c'est quand même tout récent, il est là. Alors après, les deux autres, bah, écoute, c'est normal, ouais, Berman et Colapinto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans des conditions effroyables, ouais, dantesques comme celle-là, où les meilleurs se font piéger, où Sainz va deux fois au tas, où Alonso y va également, ouais. Non, c'est normal, il n'y a rien à dire. Bah, ils testent les limites, c'est des pilotes de course, hein. Alors bon, et c'est mieux si tu ne fais pas d'erreur, la preuve, Lawson n'en a pas fait, mais bon, tu peux en faire de temps en temps. À ton corps défendant, comme on dit, je me suis fait piéger de mon plein gré, c'était dans le vélo, mais c'est un peu ça. Non, mais Richard, c'est le boulot qui rentre, c'est le métier qui rentre, voilà.
Richard aussi, imitation facile potentielle, Richard Virage.
Oui, c'est vrai. Paul Sink. Si on se met à imiter tous les sports, on va faire un podcast d'imitation.
Pas doc de Comedy Club, on va lancer ça avec
surtout Arnaud. Surtout après une heure de podcast, ça peut être très long. Ouais. Écoutez, j'imagine ceux qui sont dans leur voiture, là, ça peut être très long. Ouais, les jeunes, Louis, tu voulais revenir dessus.
Bah, Colapinto, c'est vrai qu'on l'a encensé depuis le début, et moi, j'étais un petit peu...
C'est vrai que la semaine dernière, tu nous as dit attention quand même, calmos, même dans le warm-up, hein, quand il y a eu des rumeurs sur Colapinto chez Red Bull.
Parce que moi, je me dis toujours, on s'emballe très vite en F1 et on découpe en 8, en 12, en 22, en 30, comme vous voulez, très vite aussi. Et Colapinto, hier, je voyais qu'il était comparé à Latifi. Et là, je disais, voilà, ça y est, on va trop loin tout de suite. Donc, il fallait pas. Le comparer à un futur Hamilton il y a 15 jours, il ne faut pas le comparer à Latifi aujourd'hui, il faut le laisser faire son petit bout de chemin. C'est évident qu'avec des conditions pareilles, comme le disait Jean-Luc, t'arrives, le gars, tout simplement, il a quelques grands prix. Donc avec le simulateur de la F2, du talent, des conditions sèches, une voiture correcte, bah, ils s'en sortent et ils font des belles choses. Ils ont un petit peu la grinta, l'envie parfois qui permet de dépasser même leurs coéquipiers. Et là, on s'emballe tout de suite. Ça y est, c'est le nouveau match. Attention, laissons du temps au temps. Et Colapinto, et comme je le dis à chaque fois, rappelez-vous que pour cher, le défoncer à chaque fois.
Ouais. Mais tiens, je vais me muer un peu en défenseur. Oula,
heureusement que t'écris pas de livre.
C'est une voiture.
Heureusement que t'écris pas de livre. Elle est pas mal, celle-là.
En défenseur de Stroll, il a quand même dit qu'il avait eu des problèmes de frein. Faut le dire quand même.
Faut mieux le dire pour lui, je veux dire. C'est que lui, intérêt à dire ça, même si c'est pas vrai.
C'est fou, il a souvent beaucoup d'excuses. Hein.
Ouais.
Oui.
Papa, il a l'écurie, alors il peut en avoir.
Bon ben les amis, on a fait le tour, hein. Énorme Grand Prix quand même, hein. On a fait une heure de débrief et encore. On n'a pas dit
un mot des Mercedes quand même, hein, Russell, et des Ferrari.
On peut carrément.
Un mot. Bon. Russell pas mal et Hamilton nul, voilà.
C'est fait. Il avait dit un mot Nico.
Et Ferrari un mot, Leclerc pas mal et Sainz nul. Voilà.
Tu peux faire un peu plus long.
Pas
tu
beaucoup
peux faire
mieux,
un peu
pas
plus
mal,
long, Jean-Luc, sur les Mercedes. Vas-y. Et après, on parlera de Ferrari.
C'est toujours là aussi, là, dans ces conditions-là, le meilleur côtoie le pire. Enfin, faut pas oublier quand même qu'il prend un super départ, il prend la tête du Grand Prix. Hein. Donc, pardon.
Tu parles de Russell.
Ouais. Donc il fait un boulot tout à fait correct. Il est pas mal. Je regardais là, oui, parce que c'était un peu anonyme, mais il est sixième du sprint. Bon. Non, il fait un week-end honorable. Alors, il aurait pu faire effectivement mieux. Et puis après, il revient dans les roues de Gasly. Il tente des attaques, mais ça passe pas. Bon, écoute, il fait un Grand Prix honorable, sincèrement. Quant à Lewis, bah lui, il y était pas du tout. Là, il sentait pas la voiture. Il la critique. Il a des problèmes. Il y a rien qui va. Et puis quand ça c'est mal parti, bon, il arrache le point de la 10e place. J'allais dire heureusement, mais c'est limite que Sergio Pérez le repasse. Et puis surtout, il bute quand même sur Lawson. Lawson avec une RB, il arrive pas à le passer sous la pluie.
Mais Lewis quand même, Jean-Luc, il nous fait une décla là après la course. Il dit que j'ai hâte d'être à Noël.
Oui, donc, ça m'étonne
là,
pas. Oui, oui.
T'as vu,
oui.
Et puis t'as une interview chez Canal où t'as la journaliste qui commence à lui poser des questions sur sa course. Il dit bon, j'ai rien à dire sur la course. Il dit par contre, rouler avec la voiture de Senna, c'était un rêve. C'était le Lewis de mes 5-6 ans là. Donc en fait, ce Grand Prix, mais je sais pas, il était pas là quoi.
Attends, puis en plus, Russell est devant au général hein, maintenant. Ça
ouais,
y est.
Ouais, ouais.
192 à 190. Et puis là aussi, bah,
ouais,
il dit
qu'il s'en fiche. Il dit qu'il s'en fout. Lui, il dit ça fait aucune différence pour moi. Mais bon.
Écoute.
Pas obligé de le croire.
Il y avait eu ces deux très très belles victoires hein, en Grande-Bretagne et en Belgique, bien sûr, magnifique. Et puis on a le sentiment quand même que de temps en temps, il n'y est pas. Alors je ne sais pas pourquoi, il n'y a que lui qui sait pourquoi. Mais j'ai l'impression que là, Russell est en train de prendre très nettement le pas. Hein. Bon, voilà, chez Mercedes. Quant à la monoplace, bah, c'est pareil, ils le disent eux-mêmes. Tu as l'impression qu'il y a un Grand Prix où elle marche comme une balle. Et puis le Grand Prix d'après, elle ne marche pas, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors c'est quand même un peu ennuyeux.
Tu sais, on a fait un peu de F1 fiction. Mais je pense que s'il n'y a pas les faits de course avec virtuel safety car et drapeau rouge, je pense que Russell peut aller le gagner. Hein.
Ouais,
c'est vrai.
Ouais, je suis d'accord.
La lutte avec Norris, je crois qu'il faut un mauvais arrêt au stand. Hein, parce que Norris doit repasser juste devant au moment de faire le premier arrêt au puits. Mais je pense que Russell n'est pas loin d'aller la chercher cette victoire. Hein.
Ouais.
Il n'était pas très loin. Ouais, c'est vrai. Non, puis attends. Et il est dans le coup quand même. Hein. Il termine, je te dis, à 7 dixièmes de Gasly.
À 7 dixièmes de Gasly et il passe beaucoup de tours à descendre dixième par dixième. Alors il y a un secteur en fait où il perd à chaque fois. Et c'est un peu ce qui sauve Pierre. Mais c'est là aussi où moi je dis, les fois où Pierre a fait des podiums ou des victoires, il n'a jamais été dans une voiture meilleure que ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là. Et donc à chaque fois, il a fallu être parfait.
Et c'est sortir les coudes, comme
et c'est ça, et c'est là, c'est ça que je veux noter en fait, que je trouve dingue chez nos deux Français, c'est qu'à chaque fois, les peu de chances qu'on leur a données, ils les ont prises. Alors, excepté le passage Red Bull vraiment jeune de Pierre, mais depuis qu'il est revenu donc chez Toro Rosso, dès le premier week-end quasiment, alors qu'en plus il perd son pote, enfin bref, c'est horrible, il est de nouveau dedans. Et depuis, les mecs, dès qu'il a fallu attraper les miettes, ils les ont attrapées. Et ça, franchement, c'est pour
moi. Tu vois, en termes de défense, parce qu'évidemment, on pense sa défense sur Sainz à Monza. Mmh. Et là, on retrouve un peu les ingrédients, la gestion de ta batterie, tes niveaux de batterie, sur la défense. Parce que, mine de rien, Russell, il a passé quelques tours derrière en klaxonnant un petit peu. Alors, il grimpait
Il y a un moment, il klaxonne dur. Ouais.
Mais il a passé plusieurs tours en klaxonnant. Hein.
Ah ouais, il y a 2-3 tours. Et je me dis, est-ce que Pierre se dit, je le laisse là parce que du coup, il va surchauffer un peu, il va devoir reculer. Est-ce que c'est juste que lui est déjà l'agonie sur ses pneus.
Il est question de trajectoire qui s'asséchait un peu.
Ouais. Et je me disais, ils annonçaient une petite pluie de fin. Je disais, faut qu'elle retombe. On a besoin de pluie, nous. Et c'est vrai que sans ça, il s'en est sorti. Et Esteban, une fois que Verstappen était passé, lui, c'était presque une autoroute. Il y avait 3 secondes devant, 3 secondes derrière. Alors que Pierre, lui, vraiment, bravo Pierrot, si tu nous écoutes de là-haut, depuis la hausse,
toute la piste.
Très rapidement, les mecs, sur Charles, vraiment en 30 secondes, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, mais...
Pas trouvé extraordinaire, bonne course, mais il a déjà été plus parfait, quoi.
Ouais, il l'a dit. Hein, lui aussi, moyen, faut être clair, moyen à tout niveau. Même en qualif, il était déçu, hein, il part que 5. Au niveau de Lawson, il fait un grand prix correct là aussi. Il sauve les meubles.
Hein, c'est un sprint où
il a sauvé les meubles aussi. Profitant de la.
Avec Verstappen qui dit oh Pierre, arrête tes erreurs là, tu m'agaces, tu m'emmènes. Ah. Ça c'était pas mal ce moment aussi, tu vois. Le gars a le temps de commenter les erreurs des autres pendant la course, tu vois. Donc ça c'était très drôle ça.
Bon. Puis il prend autant de points que Norris sur l'ensemble du week-end.
Et comme quoi ils sont indissociables à chaque fois, Pierre et Esteban prennent autant de points sur le week-end. Il y en a un en deux courses et l'autre en une, gars sont toujours égalité.
C'est la Normandie crew.
Ouais,
le Normand crew, c'est énorme. Bon les gars, merci beaucoup. C'était un super Grand Prix du Brésil. Franchement, on s'est régalé à le débriefer. Je pense qu'on a peut-être pété aussi le timing, mais on
comme
s'en
le Grand Prix du Brésil.
Exactement,
pareil.
Comme le Grand Prix du Brésil, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez noter l'imitation d'Arnaud Valadon, j'espère que vous mettrez un petit peu plus au podcast quand même, parce que là je suis pas sûr qu'on atteigne les 5/5, mais dans tous les cas mettez-nous une petite note parce que c'est super important. Et puis maintenant on se retrouve dans 3 semaines quasiment, enfin un petit peu avant, parce qu'on va vous faire le warm-up du Grand Prix de Las Vegas le mercredi ou le jeudi qui précédera le week-end de
avec
de
les meilleures anecdotes de Jean-Luc sur Las Vegas.
Bien sûr, et puis on se retrouvera peut-être le lundi qui
suit. Sur la piste ou en dehors. Jean-Luc.
Avec Jean-Luc pour peut-être pour revenir sur le 4e titre de champion du monde de Max Verstappen, parce que ça va peut-être se passer dans 3 semaines à Las Vegas. Merci les gars, à très vite.
Salut Nico, salut tout le monde, vive Alpine.
Le paddock RMC.